Ne va pas au soleil, Mylène. Je t'en supplie, tu auras des problèmes. Surtout, méfiez-vous du soleil. Hein. Le soleil, là, maintenant, il peut tuer des gens. Hein. Hein? Bonjour, Catherine. Quel bon vent vous amène,
Catherine. Mais j'avais pas compris que c'était comme ça. Bonjour.
Bonjour, Betty.
Coucou, Betty.
Coucou, ça va?
Bien que je vais te montrer. Oh!
Ça va?
Et sa maman est là, hein?
Oui, oui, tu m'as dit, oui, j'ai vu ton message. Je n'ai pas répondu, mais j'ai vu ton message.
C'est toute la mafia de Champigny qui débarque, hein?
T'as vu ça? On vient te surveiller.
Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est bien. Ah, ça. Alors, on va commencer. C'est dans l'épître de Jude qu'on sera. Voilà. Si tu sais où c'est. Hébreu, Pierre, épître de Jean, Jude, avant l'Apocalypse.
Ok. Par contre, je vais me déconnecter parce que, comme je suis au camp, il risque d'avoir du bruit, mais je vais t'écouter.
Oui, voilà.
Ok.
Il fait aussi chaud chez vous?
Il fait aussi chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud.
Purée, dit. Et c'est encore plus demain, il paraît.
C'est vrai? Oui.
Et tu t'imagines nos amis chrétiens au Pakistan? Ils travaillent sous 45-48 degrés au soleil à faire des briques avec des gosses. À 5 d'une famille pendant 15 heures pour 1,50 €. T'imagines? La condition, c'est la même que les Hébreux en Égypte. Alors maintenant, ce n'est plus Moïse qui leur faut, c'est Jésus-Christ, hein, pour que ça se termine. Hein, parce que moi, je prie que le Seigneur revienne. Hein. Nous encore, on est favorisés par rapport à tous ces chrétiens, mais incroyable la situation dans laquelle ils sont. Et c'est des millions de chrétiens. Hein. Des millions de chrétiens, ce n'est pas 30 ou 50 000. Hein. Alors, j'ai confiance que le Seigneur va bientôt être là. Parce que le cri de ces malheureux monte vers Dieu. Hein. Je t'aime, Betty. Ne t'attriste pas à ce que j'ai dit. Ne t'attriste pas. Et bonjour à ton mari. Gros bisous.
Ok. Je vous embrasse. À bientôt.
Ne t'attriste pas. Le Seigneur est bientôt là.
Ok. Bon. À bientôt. Bon. Merci, Jean.
Oui. Au revoir, ma chère sœur en Christ.
Au revoir.
Voilà. Bonjour Dylan, bonjour Annette, et bonjour à beaucoup d'autres. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Il faut savoir que parmi tous ceux qui écoutent, hein, je ne me pavane pas, hein, je vous le dis franchement, je le fais par devoir et par amour. Autrement, je serais bien plus peinard de ne pas faire ces trois messages. Mais je vais vous dire, il y a un immense amour en Dieu pour vous. Un immense amour en Dieu pour vous. Et la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas encore, ne sont pas prononcés pour être chrétiens, pour appartenir à Jésus-Christ. Ils ne vont pas dans une assemblée. Parmi ceux qui ont accepté le Seigneur, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas dans une assemblée. Il y a une répulsion à faire partie d'une assemblée. Il y a tellement de méfiance. Et voilà. Et donc, pratiquement, je continue à persister, à faire ces messages, parce qu'il faut encourager, exhorter, et les temps sont très courts. Alors, Matthieu 22, Matthieu 22, on va aller dans Jude après, hein? Matthieu 22, verset 34, on va dans Jude après. Gardez toujours un feuillet ou quelque chose glissé dans l'épître de Jude. Merci pour le petit cœur. Merci. Alors, vous apercez Noémie dans l'escalier là-bas. Vous voyez qui chipote, c'est bien, hein? Elle n'a pas encore apporté un chat sur mon dos, mais si elle s'y met, voilà. Bonjour Dylan, bonjour Nathalie, bonjour Antoinette. Que Dieu vous bénisse. Il ne fait pas trop chaud là au 16e étage, Antoinette? Hein? Ça doit être incroyable, quoi. Hein? Alors, Matthieu 22, 34. Les pharisiens, c'est une secte extrêmement rigoriste, religieuse, légaliste, hein, et dure. Ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, une autre secte qui ne croit pas dans la résurrection des morts, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, publiquement évidemment. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset D. Je regarde au petit D, en bas de ma Bible, et je vois, c'est mis Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Donc, Moïse, sous l'injonction du Saint-Esprit, a déjà enseigné cela en 1340 avant Jésus-Christ. C'est une loi fondamentale du monothéisme judaïque et de l'évangile chrétien. Donc, puisque Jésus le fait répéter, il le dit. Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Bon, le problème, c'est que pour le pharisien et le sadducéen, il pense que Dieu est loin, 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 ouh là 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 là, il est très loin. On le verra peut-être bien un jour, hein, si on appliquait tous les règlements, hein, s'il nous veut bien de nous. Donc c'est une religion où on doit mériter son salut et on a des angoisses sur le salut. Et puis les hommes religieux aiment bien de mettre de l'angoisse, comme ça ils tiennent le pouvoir. Et ils ne sont pas plus assurés eux-mêmes d'être sauvés. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta pensée, de ton âme. Eh bien, c'est « Je suis Dieu et je suis en face de vous. Est-ce que vous m'aimez ?» C'est là l'astuce de la venue de Jésus. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Dieu est à la fois homme et Dieu. Jésus est à la fois homme et Dieu. Donc, quand il dit cela, il parle à des sourds, à des aveugles. Mais lui, il est Dieu. Et comment est-ce qu'on peut imaginer cela ? Eh bien, vous allez regarder dans Matthieu 4. Matthieu 4. Vous savez qu'il y a eu les tentations dans le désert. Et Matthieu chapitre 4, Satan qui s'amuse bien, il prend des paroles de la Bible, lui, pour tenter le Fils de Dieu. Vous imaginez, le toupet. Alors, ne faites pas d'illusions, il peut... et nous irons dans l'épître de Jude pour ça, il peut prendre la Bible pour nous tromper, nous égarer. Attention, les amis. Il est futé, Satan. Hein? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, Matthieu 4, 5, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume 91, 91 pour les Français, versets 11 à 12. Que veut dire ce verset dans le psaume 91? Les versets 11 et 12 veulent dire simplement que les anges ouvriront le tombeau et feront sortir le Fils de Dieu ressuscité. Ils sont envoyés pour que le Fils de Dieu ne reste pas prisonnier de la pierre du tombeau. Et je suis allé là-bas, c'est effectivement une pierre tellement lourde qu'il fallait des gens costauds pour la sortir, donc un ange a une puissance que nous n'avons pas. Et qu'est-ce qui se passe? c'est que Satan prend ces versets-là pour tromper Jésus et lui faire des bêtises, le faire tomber dans l'orgueil. Allez, du haut du temple, saute-toi sans parachute, sans élastique, et tu verras, Dieu, il t'aime tellement, il va te garder, hein? Oui. Sauf que ce n'est pas l'heure, sauf que ce n'est pas le moment, sauf que ce n'est pas le sens du verset, des versets 11 et 12 du psaume 91. Et Jésus le sait, puisqu'il est Dieu. Et il est évident que dans le psaume 91, juste après, il est mis qu'il foulera l'aspic, le serpent, le dragon, les lionceaux, il brisera Satan. Et vous voyez l'astuce de Satan, c'est de ne pas dire toute la vérité, c'est d'utiliser des versets pour séduire, comme il a séduit Adam et Ève. Mais le nouvel Adam ne se laisse pas séduire, il est fils de Dieu, il est Dieu. Adam et Ève, qui avaient des capacités énormes au niveau de l'intelligence, au niveau de la santé, au niveau de l'instruction en Christ, en Dieu, ils se sont laissés séduire. Mais le Fils, le nouvel Adam, venu sur terre, ne se laisse pas séduire. Une nouvelle humanité peut commencer avec le nouvel Adam. Et évidemment, Satan ne va pas mettre les versets qui déjà proclament sa défaite. Lisez le psaume 91 et vous verrez, c'est l'échec de Satan. Mais c'est la victoire de Christ qui est annoncée là. Alors, notre grand séducteur, notre grand menteur veut tromper Jésus, le Fils de Dieu, et Jésus lui répond, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et effectivement, là, à cet endroit, on voit que Jésus dit, je suis Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, verset 7. OK? Jésus est Dieu en chair, incarné à... Difficile à admettre. Mais imaginez que le Fils de Dieu ne soit pas venu, que Dieu ne soit pas venu sur terre. Nous sommes les plus malheureux du monde. Regardez l'état du monde, regardez l'injustice, regardez le gouffre dans lequel l'humanité se jette pour le moment, avec les guerres et tout. Sans la venue de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? C'est par amour que Dieu a envoyé Jésus. Et il est Dieu. Il ne va pas laisser prise à Satan. Il ne va pas donner sa main à Satan. Donc, dans Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est global. Il faut s'investir dans l'amour pour Dieu. Et qui est Dieu? C'est Christ. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans son épître, celui qui a le Fils a le Père. Hein? C'est pour ça que dans Jean chapitre 14, Jésus dit à Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes un. Donc, clairement, ils sont comme des abrutis, des aveugles. Ils ne comprennent pas que Dieu est venu visiter Israël. Peut-être que 2, 3 ans plus tard, il y a parmi ceux-là des convertis, des enfants de Dieu, évidemment. Nous sommes tous des abrutis et des aveugles. Il faut reconnaître notre état lamentable de pécheur et pour venir à Christ, pour le laisser se révéler en nous. Se révéler en nous. Notre petite intelligence n'a pas la capacité de connaître Christ, le Fils de Dieu, Dieu et homme. Alors, c'est le premier et le plus grand commandement. Voilà ce que Jésus dit. Et voici le second qui lui est semblable, donc qui est premier et qui est grand, un grand commandement. Voici le second qui est au même rang que le premier. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça, dans les mots de Jésus, dans sa bouche. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et paf. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique, chapitre 19, verset 18. Allez voir, c'est encore Moïse. C'est encore en 1340. C'est encore la révélation de Dieu. C'est toujours Dieu qui a parlé. Et quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Ces hommes, pharisiens et sadducéens, pour la plupart, je ne dis pas tous, n'accepteront jamais Jésus-Christ ressuscité, n'accepteront jamais la résurrection, n'accepteront jamais que Dieu s'est incarné dans un homme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont propager le bruit que Jésus a été enlevé du tombeau, il n'est pas ressuscité, par ses disciples. Ils donnent de l'argent aux soldats pour dire cela. Et aujourd'hui, ici à 25 km, dans une synagogue, un lieu de juifs, hein, de prière juive, le rabbin l'a déjà dit. Il l'a dit à un collègue pasteur, il pleurait, vous avez cru en Jésus de Nazareth, le Messie, et nous pas. Nous avons notre tradition et nous croyons toujours qu'il n'est pas venu, que ce sont des menteurs qui ont volé son corps, le corps de Jésus de Nazareth, et qu'il n'est pas ressuscité. Mais il pleurait. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas le courage de se mettre à genoux jour et nuit, de jeûner, pour que son cœur de pierre soit changé en cœur de chair, comme l'a annoncé Jérémie, comme l'a annoncé Ézéchiel? On peut garder son cœur pourri, tout en sachant la vérité, et en ne la vivant pas, forcément. C'est le dilemme de chacun de nous. Alors, ces pharisiens, ces sadducéens, qui ont ensuite, après, quand ils ont vu les disciples de Jésus se répandre la bonne nouvelle de la résurrection, ces disciples de Jésus qui mettaient la pagaille pour eux, qui s'opposaient à eux tout compte fait, même s'ils ne cherchaient pas la bagarre, la dispute, ils annonçaient Jésus ressuscité, la bonne nouvelle. Ils sont devenus très fâchés. Ils ont fait un concile en 69 à Genève et ils ont décidé que tout juif croyant en Jésus était exclu de la synagogue et du temple. En 69, 10 ans plus tard, le général romain Titus vient, saccage Jérusalem et brûle le temple. Et les juifs se dispersent. Ils sont tellement bien dispersés qu'il y en a partout. Il y en a qui sont tués, massacrés, n'est-ce pas? Massada, la forteresse de Massada, les Juifs, les Esséniens, Qumran, partout il y a eu un massacre. Ensuite, Jésus l'avait annoncé, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Ensuite, il restait des Juifs tout de même sur le territoire. Eh bien, plus tard, en 135, donc 65 ans après Titus, Bar Kochba, un sadducéen, mène une révolte, au point que Rome doit envoyer 6 légions de soldats. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de Rome d'envoyer 6 légions sur un petit pays pour les mater. Ils ont massacré 1,5 million de Juifs. Pour mater les Germains le long du Rhin, 2 légions. Pour mater les Anglais, les Anglo-Saxons en Angleterre, 2 légions. Pour mater les Portugais et les Espagnols, 2 légions. Mais avec les Juifs, 6 légions, vous imaginez? Qu'ont fait les Juifs? Ils sont morts ou ils sont vivants? Ceux qui sont vivants sont partis à travers l'Arabie, à travers la Syrie, l'Irak, partout. Au sud Yémen, on retrouve encore des vestiges de leur passage dans des îles, dans l'océan Indien, au sud du Yémen. On trouve encore des maisons avec l'étoile à 6 branches, parce que l'étoile d'Israël, c'est 6 branches. L'étoile de Satan, c'est 5 branches. N'oubliez jamais. Tous les drapeaux d'aujourd'hui, tous les t-shirts portent des étoiles à 5 branches. C'est l'étoile de Moloch. En Raphaël, c'est l'ennemi d'Abraham. Mais l'étoile de David, c'est l'étoile, c'est 2 triangles inversés. C'est 2 fois Dieu, 2 fois la Trinité. Et ce qui se passe, tous ces Juifs qui sont partis avec l'idée qu'ils sont Juifs et qu'ils attendent le Messie. Et que Jésus de Nazareth, c'est l'histoire ancienne, c'est faux, c'est un mensonge. Ils ont gardé le message de leurs responsables. Les disciples de Jésus sont des menteurs et Jésus n'est pas ressuscité. Pire, en racontant tout cela aux Bédouins, à tous les gens de Syrie et d'Irak, il est arrivé que quelqu'un dise, Muhammad, dise, Il n'est même pas mort sur la croix. C'est un autre qui est mort à sa place. Et dans le New Age, dans les sectes du New Age, d'anthroposophie, on dit non, il n'est pas mort. Il est parti au Japon, il s'est réincarné plusieurs fois. Au point qu'un collaborateur direct de l'entreprise, avant que je fasse des études de Pasteur, un collaborateur direct, un homme extrêmement compétent, très gentil, vient un jour un dimanche avec sa femme et me dit, Jean, si votre femme et vous, vous continuez à croire dans la résurrection de Jésus-Christ, je vous quitte. Eh bien, on a dit, on continuera toujours à croire dans Jésus ressuscité. Ils sont partis. Et clairement, la résurrection de Christ, la venue de Christ en croix et sa résurrection, c'est l'obstacle majeur pour Satan. C'est l'obstacle majeur pour Satan. Le grand menteur ne veut pas de ça. Il ne veut pas de la croix, il ne veut pas de la résurrection. Et surtout, je vais vous dire, il ne veut pas de l'amour infini de Christ pour les hommes. Parce que lui, il déteste les hommes, il préfère les voir en enfer. Tandis que Christ, il a un amour infini, incommensurable, plus haut que les montagnes. Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. L'amour infini de Dieu pour les hommes s'est révélé en Jésus-Christ. Et il est à notre portée, si nous donnons notre cœur et notre vie à Jésus, de Nazareth, mort et crucifié pour mes péchés, et ressuscité pour ma vie éternelle, et pour le royaume avec lui, alors je suis le plus heureux des hommes. Je suis dans l'amour divin pour l'éternité. Donc, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Ainsi donc, toute la Bible dépend de cette réalité dont je viens de vous parler. C'est à ce point que dans le discours de Matthieu, chapitre 22, eh bien, juste après, les pharisiens, et ils ne se laissent pas faire, hein, c'est des coriaces, les pharisiens étaient assemblés, verset 41, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Ah, que pensez-vous du Messie que vous attendez? Il est en face d'eux, mais que pensez-vous, puisqu'ils ne le voient pas? Il lui marche sur les pieds, il le haïssent. Vous savez qu'on peut trouver dans les églises chrétiennes des gens qui marchent sur les pieds de Jésus, qui ne le connaissent pas. Ça, c'est grave. Et oui, c'est comme ça, il y a des brebis et des boucs, il y a du blé livré dans le royaume de Dieu. Alors, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, il est le fils de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit Saint, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, psaume 110, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle le Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Il y a une dame en face de moi qui s'appelle Catherine et qui tousse. Priez pour elle parce qu'elle ne va pas passer l'hiver. Hein? Elle vient de Paris. Non, elle vient de Lille. Elle vient de Lille. Oui. La brave Catherine. Elle est là pour 10 jours. C'est très bien. Lille, en France, au nord de France. C'est une ch'ti. Elle n'a pas l'accent pourtant. Elle en a le caractère, cependant. Elle a l'accent. On va voir ça. Je vais me marrer alors. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est psaume 110, écrit 1000 ans avant Jésus. Je vais vous le traduire en bon français. Le Seigneur dit à mon Seigneur, Dieu le Père dit à Christ, même qu'il n'est pas encore sur terre, il est au ciel, il est éternel le Christ. Dieu le Père dit à Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La victoire est à Christ. La victoire est à Christ. Et les ennemis, Satan, et tous ceux qui combattent l'Évangile seront le marchepied de Christ. Il ne faut pas douter de cette parole. Cette parole montre bien l'égalité divine entre le Père et le Fils. Elle montre la majesté, l'autorité, la royauté, la seigneurie de Jésus-Christ, qui est un jour qui est visible, qui est déjà dans le ciel, que Jean a vu, que Esaïe a vu dans le temple, n'est-ce pas? Que David, David a vu, que Moïse, avec les anciens, a vu sur la montagne de Horeb. Eh bien, ce Dieu visible, qui nous est encore invisible à cause de notre péché, n'est-ce pas? C'est Esaïe qui le dit, c'est à cause de notre péché que la face du Père nous est cachée. Eh bien, ce Dieu de gloire va installer Jésus-Christ sur terre comme roi. Et cette royauté de Christ, le millénium de Christ, ça fait partie fondamentalement de la foi chrétienne. Bon, aujourd'hui, plus de 85% des églises évangéliques ne croient plus dans le millénium sur terre, du royaume de Christ sur terre, de l'enlèvement de l'Église et de l'établissement d'Israël comme témoin privilégié de l'Évangile. Pourtant, lisez Apocalypse chapitre 7, les 144 000, et puis ensuite tous ceux des nations qui sont élus, qui sont aimés, et qui eux-mêmes, dans le royaume de Christ, propagent la bonne nouvelle. Alors, vous avez vu que tout est amour en Dieu. C'est ça que j'ai voulu. Tout est amour en Dieu. Tout est amour en Christ. Et les principes de notre vie, c'est tout est amour pour Dieu et pour les autres. Tout est amour. Et chez Satan, tout est haine et mensonge. Que voulez-vous choisir? Je pense que je suis assez clair là-dessus. Alors, on peut prendre l'épître de Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Jude, serviteur de Jésus-Christ, doulos, serviteur, vraiment un serviteur. Frère de Jacques. Jacques, et Jacques, le responsable de la communauté de Jérusalem, la première église, et Jude sont des enfants de Joseph et Marie. Alors, ils sont les frères de Jésus. Ah non, ils sont de la même famille que Jésus. Mais Jésus n'a pas de cellule de sa maman. Il n'a pas un héritage biogénétique de sa maman. Il n'a pas hérité du péché des hommes, des humains et de Adam et Ève. Jésus est déposé par le Saint-Esprit. Marie, c'est la mère porteuse. Tout le problème dans la théologie catholique et orthodoxe, c'est qu'on pense que Jésus a la moitié de sa mère et l'autre moitié du Saint-Esprit. On pense que pour ça, Marie doit être vierge pour ne pas transmettre, qu'elle doit être sans péché, immaculée conception. On pense qu'elle ne doit pas transmettre le péché à Jésus, puisque Jésus est sans péché. Donc il a fallu que Marie soit sans péché. C'est un dogme qui a été voté en 1870, au Vatican I, ainsi que le dogme de l'infaillibilité du pape. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Le pape ne se trompe pas, il parle comme Dieu. Hein? C'est bien ça. Hein? Vous croyez que j'oserais dire ça de moi-même? Ou on tente un chrétien dans notre église dire une chose pareille? Ou c'est Satan, ou il faut être fou? Alors, le dogme de Marie Immaculée Conception vient de là. Et en 1940, je pense, en 1940, c'est la date, il y a eu un concile encore, où on a voté l'Assomption de Marie. Marie est montée au ciel, tout comme Élie, tout comme Enoch, tout comme Jésus-Christ. Que d'hérésie, n'est-ce pas? Pour traverser, pour changer la parole de Dieu. Alors, Jude est un fidèle serviteur de Jésus-Christ, comme Jacques, ils sont de la famille de Jésus, mais ils ne sont pas frères de Jésus. Ils ont vécu comme des frères, puisque Jésus est fils de Dieu, il n'a pas des cellules, il n'a pas un acquis biogénétique de sa mère. Il est venu par la puissance du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère et était déposé là. Et il a fait un parcours humain et divin. Alors, Jules, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Appelés. Comment pouvez-vous être appelés, chers amis? Comment? C'est assez bizarre. Nous avons eu 10 Ukrainiennes dans la maison. Il y en a une, la plus âgée, qui est restée, qui vient au culte depuis le début. On ne l'y oblige pas, on a donné une Bible en ukrainien à tout le monde. À ceux qui préféraient une Bible russe, on a donné une Bible russe. Pour ceux qui trouvaient que la Bible était trop grosse, on a donné un Nouveau Testament avec des psaumes, en ukrainien et en russe. Une seule a pris la Bible en russe et en ukrainien. Elle est restée chez nous. 52 ans. Un songe, avant de partir, un mois avant de partir en Belgique, elle voyait la maison où elle allait aller. Et dans la maison, dans la grange, elle voyait un ensemble de personnes qui faisaient de la farine avec un moulin. Quand on faisait la farine, tout d'un coup, elle parle avec les autres, elle l'explique. Dieu peut avertir quelqu'un par un songe. Dieu peut lui dire, tu vas aller là, c'est moi qui vais te diriger là. Et après, tu vas entendre la parole de Dieu là. Et effectivement, c'est ce qu'elle a dit par la suite lors d'un culte. Ça, c'est un appel. Ça, c'est un appel. Paul, sur le chemin de Damas, craque, badaboum, il tombe du cheval. Il devient aveugle. Une immense lumière, un immense flash. Hein? Plus important qu'un soleil. Et il devient aveugle. Et Christ se révèle à lui alors qu'il est aveugle. Chers amis, si vous êtes encore aveugle, Jésus peut se révéler à vous. Dans son carnet, Dieu, dans son carnet de rendez-vous, Dieu a déjà fixé un jour et une heure pour vous. Acceptez qu'il vous appelle. Acceptez qu'il fasse le bouleversement de votre cœur, de votre âme et de votre vie. Acceptez. Vous ne serez pas perdant. Est-ce que ça sera la planque, la grande tranquillité, le confort, le velours? Non. La vie éternelle, le bonheur d'être aimé par Dieu, le bonheur de connaître Dieu, le bonheur de trouver des frères et des sœurs sur la terre, des vrais frères, des vraies sœurs, faire partie d'une vraie famille. Ce n'est pas la famille avec les cathédrales, les basiliques, ce n'est pas ça, les comptes en banque, les armées, ce n'est pas ça. La grande famille spirituelle des chrétiens nés de nouveau, qui aiment le Seigneur, qui sont aimés du Seigneur. C'est la famille de Dieu, aujourd'hui, qui vous attend, qui est comme une hôtellerie pour vous accueillir, vous qui êtes meurtri, qui êtes blessé par les choses de la vie. Oui, quand on est appelé par Dieu, souvent, on a été abîmé par les choses de la vie. Si on n'y a pas été abîmé, attendez-vous à ce que ça arrive. Mais l'hôtellerie est nécessaire. Je dirais que la meilleure Croix-Rouge, celle qui a été inventée pendant la guerre de Sarajevo par un monsieur, un chrétien. C'est un chrétien qui a fondé la Croix-Rouge. Henri Dunant. Quand il voyait tous ces gens malheureux, hein, qui souffraient, qui mouraient, il les a ramassés, il a organisé. La Croix-Rouge est née comme ça. C'est un chrétien qui a commencé l'amnistie internationale. C'est un Anglais. Il était tout seul dans une église au Portugal. Il est en train de se recueillir et de prier, puis tout d'un coup, le Seigneur lui demande d'organiser ce système d'écrit où on se met tous à écrire aux autorités pour libérer un prisonnier, où on se met tous à écrire ensemble, de manière communautaire, par amour et dans la foi, à un prisonnier. Et puis après, c'est devenu un mouvement laïque, comme la Croix-Rouge. Beaucoup de choses sont devenues laïques et sans Dieu. Mais beaucoup de choses sont nées grâce à des croyants, à la foi. Ne négligez pas, l'évangile est le sel de la terre, c'est le levain. Et il faut bien savoir que si nous sommes appelés, nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Henri Dunant avait un amour multiplié. Le fondateur de Amnesty International avait un amour multiplié. Et combien de gens ont fondé des choses comme ça parce que l'amour en eux abondait. Ils n'étaient pas plus que les autres. Pensez à ce petit garçon qui avait 5 pains ou 7 pains et 3 poissons pour une foule de 15-20 000 personnes. Il a apporté le peu qu'il avait. Et le peu qu'il avait, Dieu a multiplié et la foule a été nourrie. Apportez le peu que vous êtes, le peu que vous avez reçu, le peu que vous croyez que vous êtes, sans orgueil. Laissez-vous aimer par le Seigneur et appeler. Il va multiplier en vous les grâces et son œuvre. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est, Éphésiens 2,8, c'est quoi? C'est un don de Dieu, afin que nul de nous ne se glorifie, afin que nous pratiquions les œuvres, les actions, les engagements prévus d'avance par Dieu, pas prévus par nous. Non, je pense qu'il y a 2 ans et demi, je voyais pour la première fois Saïd sur ce petit appareil. Je pense à ce brave jeune homme de 30 ans qui annonçait l'évangile. On discute, de part et d'autre, on vérifie notre doctrine, on vérifie notre connaissance du Seigneur et de la parole. Puis après, je vois tous ces enfants alentour de lui. C'est impossible que je ferme les yeux, les amis. C'est impossible. Ça a commencé par 50 euros pour qu'il aille au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement, à Islamabad. Ça a commencé 3 semaines après qu'ils ont dit oui, on peut créer une école chrétienne dans votre région. Et où on en est maintenant? 135 enfants. L'amour et la grâce et la paix sont multipliés en Christ. Ça nous dépasse. Quand je vois à quel point, un peu partout, des chrétiens avec peu de moyens font tellement de bien, hein, et quand je vois par exemple nos filles pour l'école, là, eh bien je peux dire, oui, la grâce, la paix et l'amour sont multipliés. C'est un fait fondamental que l'œuvre du Saint-Esprit, agissant dans les chrétiens, si démunis qu'il soit, la puissance de Dieu agit et se révèle. Donc Jude n'est pas un rigolo qui fait des beaux versets, des paraphrases. C'est le propre de la vie chrétienne, ce qu'il dit là. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, vous imaginez quel bonheur d'être aimé, dans le cœur de Dieu, dans son amour, entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, et gardé pour Jésus-Christ. Gardé pour qui? Mais pour celui qui a vraiment la tâche de nous diriger, le bon berger, le roi, celui qui a donné sa vie pour nous, notre Seigneur. Ne cherchez pas seulement un sauveur, vous devez être avec le Seigneur. Si réellement vous connaissez son amour, vous êtes attiré et vous obéissez, vous engagez pour le Sauveur et il devient votre Seigneur. Ce n'est pas par obligation qu'il devient le Seigneur, c'est parce que vous le connaissez. Et il n'y a rien de plus beau sur la terre et dans les cieux que Jésus-Christ. Je prends Apocalypse chapitre 5. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc Dieu le Père, un livre écrit en dedans et en dehors, donc transparent, scellé de 7 sceaux. Et 7 sceaux représentent l'autorité de l'empereur. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Impossible aux hommes d'ouvrir ce livre. Alors, regardez, c'est un être sensible, et je suppose que vous l'êtes, si vous écoutez régulièrement, c'est que vous êtes sensible. Je pleurais beaucoup. Je pense que c'est vraiment un brave type, ce genre. J'ai toujours dit à ma femme que si j'étais né à la même époque, Jean, le Jean de Jacques et de Zébédée était sur une épaule, moi je mettais ma tête sur l'autre épaule, à moins qu'un autre me chauffe la place. Mais en tout cas, tout de suite, hein, direct. Hein. Ah non, je ne pourrais pas m'en passer. Quand je vois, il y a deux petites Portugaises à se jeter dans mes bras chaque fois qu'elles me voient. Mais je pense à ce que Jean faisait avec Jésus. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Il n'y a aucun humain qui a la hauteur. Même pas lui. Whitey. L'un des vieillards, donc un prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau, il y en a 24, ça représente tout le quorum des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, me dit, quand on dit Nouveau Testament, c'est 12 apôtres, hein, ne pleure point. Donc, allez, arrête de pleurer. Il n'y a pas de motif de pleurer parce que tu te trompes. Tu crois que tu es en échec? Tu crois que l'humanité est en échec? Non, elle n'est pas en échec, l'humanité. Et aujourd'hui, hein, chers amis, je vous le dis, l'échec n'est pas le but de Dieu pour l'humanité. C'est Satan qui veut l'échec de l'humanité. Et tous ces fous furieux qui l'aiment. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Jésus, de la tribu de Juda, le rejeton de David, le lion de Juda. Ah! Eh bien, c'était annoncé. Bien sûr, c'était annoncé à la fin de la Genèse, la tribu de Juda. C'était annoncé dans les livres des Nombres. Quand Balaam ne peut pas maudire et qu'il voit un astre brillant et qu'il voit le Shiloh, le Messie, déjà au loin, qui brille comme une étoile sur Israël, et bien sur nous aussi. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Que voulez-vous que je vous dise? Nous avons la victoire en Christ. Si nous continuons à croire, à nous reposer sur l'homme, nous avons l'échec lamentable dans les hommes. Ils sont en train de démontrer où on va. Je vous parlerai d'un petit détail après, à propos de l'eau, pour vous montrer qu'on peut être tout à fait en attente de Christ et avoir la victoire. Reprenons l'épître de Jude. Tout est multiplié en nous. Tout peut être une abondance de paix, de miséricorde, de compassion envers les autres, de pardon et d'amour. Tout peut être multiplié en nous par Dieu. Dieu multiplie. C'est la parabole qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 25, et où il y a quelqu'un qui a cinq talents, l'autre en a trois, l'autre en a un. Et ceux qui en ont reçu cinq, ceux qui en ont reçu deux, ont mis en valeur ces talents et Dieu leur en donne encore plus. Et il dit, à celui qui a, on donnera encore plus. À celui qui n'a pas, on retirera encore ce qu'il a. Celui qui en avait un, il l'a enterré. Il dit, tu es un maître dur, etc. Ben oui, parce que c'est un légaliste, c'est un homme qui ne connaît pas l'amour de Christ. Il connaît Dieu, 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 oui. Il a peur de Dieu, mais il ne l'aime pas. Le problème, c'est on n'aime pas quand on a peur quand on n'aime pas. Dans un couple, quand ça ne va plus, qu'on ne s'aime pas, on attrape peur de l'autre, vous savez, parce que chacun est capable des pires vacheries. Tant qu'on s'aime, c'est la base de tout. C'est la même chose dans une église. Nous avons connu des années difficiles dans notre assemblée. Mais pour le moment, ça va depuis quelques années. L'amour y règne et nous n'avons pas de crainte. Et les grâces se multiplient. Nous pouvons porter des fruits, même sans être nombreux. Il faut la paix dans une famille. Il faut la paix et la grâce dans une famille. Il faut la paix et la grâce dans une assemblée chrétienne pour que les bienfaits de Dieu soient multipliés. Ce n'est pas une question de façade, de bâtiment. Ce n'est pas une question d'avoir des belles musiques. C'est une question de vérité. Dans Jean 17, verset 17, Jésus a dit, ma parole vous sanctifiera. Ma parole est la vérité. Alors, nous prenons le verset à la fin de l'épître de Jude, elle n'est pas longue, au verset 20. Pour vous, bien-aimés, donc, aimés de l'amour de Dieu, bien-aimés, on ne peut être bien-aimé que de Dieu. Je suis aimé par ma poule, ma femme, je suis aimé par mes enfants, mais de manière limitée, de manière différente, suivant les enfants. Et la même chose pour mes enfants. Ils peuvent attendre de moi un amour limité. J'ai visité hier 4 personnes au Luxembourg. C'est une grande grâce de les connaître, de les fréquenter. Ils ont tous des grâces à partager. Et j'en avais à partager avec eux. Mais nous sommes des êtres limités. Et pourtant, il y a quelque chose d'illimité en nous. C'est l'amour du Père pour nous. C'est l'amour de Christ déposé en nous. Ça, c'est illimité. Donc, la vie chrétienne, c'est l'absolu dans le relatif. L'absolu dans le relatif. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je suis quelqu'un de relatif. J'ai un début, j'ai une fin, etc. L'absolu dans le relatif. Dans mes petites pensées, mon éducation, mes travers, etc. L'absolu veut agir. Et veut rester là. Quel défi Dieu jette face à l'égarement d'Adam et Ève. Quel défi il jette à Satan et à tous ceux qui sont contre lui. C'est un défi digne de Dieu. C'est un défi considérable et qui réussira totalement. Alors, pour vous, bien-aimés, verset 20 hein, de Jude, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, s'édifier, c'est-à-dire se construire, se prendre en responsabilité. Et c'est un vous, ce n'est pas un vous de forme polie comme en français, ça n'existe pas en grec, c'est un vous de communautaire, d'assemblée locale. Vous édifiant tous ensemble, vous-même, tous ensemble, en s'encourageant, en s'aimant, avec les petits moyens qu'on a souvent, mais voilà, que Dieu multiplie, sur votre très sainte foi, sur cette très sainte relation, cette très sainte piété envers Dieu, cette très sainte consécration à Jésus. Prions par le Saint-Esprit. Eh oui. On ne peut pas prier autrement. On ne peut pas même dire « Jésus, il est Seigneur » autrement. C'est interdit. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Normalement, c'est interdit, mais il y en a qui ont tout fait de le faire. Hein? Depuis des siècles, hein? Et encore dans le futur. 1 Corinthiens 12, verset 3. Je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire « hors de Dieu »,« jetable », »,« maudit ». Je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Donc, n'est pas le Dieu venu sur terre pour nous aimer et nous sauver. Et que personne ne peut dire « Jésus le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Nous sommes autorisés à dire que Jésus est Seigneur si nous vivons dans l'Esprit Saint. Point barre. Rien d'autre. Rien d'autre. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui ne vit pas dans la soumission, l'obéissance au Saint-Esprit et à la parole divine, n'a pas le droit de dire Jésus est mon Seigneur, est le Seigneur. Et ça, c'est très important, chers amis. Nos églises doivent être propres. Nos bouches doivent être propres, nos pensées doivent être propres. Je ne dis pas qu'il faut être rigoriste et intolérant, ce n'est pas possible. On ne sera jamais parfait, on est en chemin. Mais ce qu'il y a, on ne peut pas non plus laisser dire n'importe quoi par n'importe qui. Si quelqu'un prend la parole dans l'assemblée, il est dit dans 1 Corinthiens que l'Assemblée dit « Amen », approuve. Si quelqu'un dit des conneries ou des choses plus graves, on ne dit pas « Amen ». Donc l'Assemblée ne doit pas dire « Amen » par automatisme, par habitude, ou parce qu'on l'aime bien, Oh, il faut être gentil avec. On dit Amen si c'est conduit par le Saint-Esprit. L'approbation de l'Église doit être honnête et loyale envers Dieu et envers la personne. Tout d'un coup, la personne a prié et personne ne dit Amen. Ben, elle va se remettre en question. Elle va demander des explications. Ben, il y a des responsables. Il faut que les personnes responsables ou des frères et des sœurs, avec amour, expliquent. Écoute, quand tu pries, tu dis des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour le juger. Pas juger la personne, la condamner. Il faut être délicat, évidemment. Mais si dans les assemblées, comme Paul dit, il faut qu'on puisse entendre, qu'on ne prie pas tous ensemble, les bras en l'air, en train de chanter, de crier, et tous prient ensemble, c'est parce que Paul ne veut pas ça, le désordre. Parce qu'il faut qu'on puisse entendre et comprendre ce que la personne dit et dire « Amen ». On est dans l'approbation mutuelle. Pourquoi ? Pour être des petits toutous ? Non. Ce n'est pas le but des apôtres ni de Jésus. Pour être des frères et des sœurs dans la foi. Et qui est mon frère, qui est ma sœur, dit Jésus ? Celui qui fait la volonté de mon Père. Yes ? Do you understand? Tout ça, ça semble un peu simple, mais c'est comme ça, c'est concret. Il faut que le message soit concret pour qu'on sache réellement où on en est. Et je pense que Jésus était plus que concret avec tout le monde. Alors, au verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu » en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. On a toujours besoin de la miséricorde de Dieu. On a toujours besoin de son pardon, de son amour. On a toujours besoin de son eau vive, de sa parole, de sa présence. On est toujours des pauvres. Et il achèvera en nous tout. Il accomplira en nous son œuvre merveilleuse lorsque nous le verrons face à face. Première épître de Jean, chapitre 3. Ce qu'il y a en attendant ce moment-là, cette œuvre de miséricorde, de grâce, de pure grâce d'amour que Christ fait en nous, pour nous achever, nous perfectionner, il est dit, maintenez-vous dans l'amour, ensemble. S'il vous plaît, tenez-vous pour qu'il n'y en ait pas un qui tombe, qui s'égare. Mais oui, nous avons une co-responsabilité entre frères et sœurs dans une assemblée. C'est une co-responsabilité dans l'amour. C'est mis ça, si. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et d'où vient l'amour de Dieu? Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout se tient, vous voyez. L'Église, le chrétien, c'est une communauté, c'est un être habité du Saint-Esprit, de Dieu. Quel miracle permanent Dieu nous propose, généreusement et gratuitement. Pourquoi n'accepterions-nous pas ce miracle tous les jours? Pourquoi n'accepterions pas ces bienfaits? Quand on va à table, on mange, on aime bien manger des bonnes choses. Pourquoi on acceptera la bonne nourriture, le bon aliment de l'âme, l'eau vive, éternelle? Alors, au verset 22, reprenez les uns, donc c'est sûr qu'il y a toujours l'un ou l'autre, à tour de les uns des autres, on a besoin parfois d'être remis à sa place, hein, ça c'est clair, mais gentiment, dans l'amour. Ceux qui contestent, ah, ben oui, il y en a qui ont plus l'esprit rebelle que d'autres, hein. Ah oui, ils ont toujours raison, etc., ceux qui contestent, mais bon, reprenez-les. Avec douceur, clairement, il y a d'autres passages pour le dire, d'autres épîtres, par Paul, par Jean, par Pierre, avec douceur. Douceur dans l'autorité spirituelle, l'esprit de l'amour. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il faut pouvoir amener les chrétiens jusqu'au jour où Jésus revient et enlève l'Église. Sinon, ils vont rester dans la tribulation. Et vous savez ce qui se passe dans la tribulation? Ce n'est plus le phénomène qui s'est passé à l'époque de Noé, avec le déluge. C'est le phénomène du feu sur la terre. Presque toute l'humanité périt. Imaginez toutes ces armes nucléaires stockées. Sous l'Antéchrist, on va jouer au ping-pong avec les bombes nucléaires. Ça ne durera pas longtemps. Pif-paf, et la Terre et toute l'humanité y est, échappant à ce feu. Soyons de ceux que Jésus vient et trouve fidèles, persévérants, aimants dans sa parole et envers les autres, tous les autres. Soyons trouvés fidèles et persévérants pour être enlevés, sinon, le grand badaboum des tribulations de ces temps. Pour d'autres, encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à tunique souillée par la chair. Pour d'autres, faites gaffe, ne soyez pas contaminés par eux, parce qu'ils ont un habit qui est souillé, qui est plein de péchés, ils ont une vie pleine de péchés. Faites gaffe de tomber, de trop les fréquenter et d'être corrompus. Dans la première aux Corinthiens, il est dit ceci, que les mauvaises compagnies pervertissent les bonnes mœurs. Et donc, c'est ça la même chose. Il faut une grande prudence envers ceux qui se conduisent n'importe comment et qui parfois même se disent chrétiens. Ayez une pitié mêlée de crainte, c'est-à-dire on a de la miséricorde envers eux, mais en même temps, on a de la prudence. Ouh là là, je dois faire gaffe. Je ne vais pas tout seul chez cette personne-là. On y va deux, trois, ou on l'avertit, et ou on la reçoit autre part, mais en tout cas, il faut faire attention. La crainte est une forme de sagesse. Je vais vous donner un exemple. Ça va vous faire rire, et puis je vois qu'il y a l'épouse de cet enfant qui écoute. Un jour, à l'école, en maternelle, nos enfants ont été à la piscine. À la piscine à Dampicourt. Benoît, Bénédicte et Véronique. Et notre fils était allé à la piscine avec tout le groupe de sa classe. Et l'institutrice et le monsieur avaient dit, je faisais chanter une chanson, un petit canard au bord de l'eau et plouf dans l'eau. Et quand on dira plouf dans l'eau, vous sauterez tous. Mais ils ne savaient pas nager. Ils ne savaient pas nager, les enfants. Ils ont tous bu la tasse, sauf un. Il est rentré à la maison un peu triste, un peu déconfit, en disant, Maman, je n'ai pas sauté comme les autres. Alors, nous, oh, on était jeunes parents, hein, le premier enfant, le deuxième, le troisième, on en prend toujours, hein, on en prend encore au sixième, hein, mais bon, différemment. On demande avis à une logopède, une psychologue. Qu'est-ce que tu penses de ça, Marie-Françoise? Alors, Marie-Françoise me dit, mais c'est une preuve d'intelligence. La preuve est un signe d'intelligence. La peur est un signe d'intelligence. Il ne savait pas nager, il n'a pas sauté. Pourquoi il sauterait? Alors on était rassurés. Nous avions un garçon intelligent. Chers amis, je vous dis qu'il faut être intelligent dans ce monde pour ne pas faire plouf dans l'eau avec les autres, alors qu'ils s'y jettent et qu'ils ne savent pas nager. J'espère que cette bonne petite blague vous fera du bien. Ne sautez pas, ne tombez pas dans le conformisme. Bé, les moutons de Panurge, bé. Alors, allons un peu plus loin, verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute, ah, il n'y a pas que notre intelligence, il n'y a pas que l'environnement bienveillant d'autres frères et sœurs chrétiennes qui peuvent nous protéger. À celui qui peut vous préserver de toute chute, de vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Cette prière d'adoration, à Dieu seul, notre Sauveur, gloire, majesté, force, puissance, on la retrouve dans l'Apocalypse, au chapitre 4, au chapitre 5. C'est les anges, les archanges qui la chantent. Les vieillards, les prophètes, au chapitre 4. Et au chapitre 5, les mêmes, plus tous ceux qui sont sauvés. Et puis, si vous allez au chapitre, à d'autres chapitres, chapitre 17, chapitre 20, 21, 22 dans l'Apocalypse, vous voyez que tous ceux qui sont sauvés chantent ce chant. Donc, ici, Jude est dans la connexion directe avec son Seigneur. Il est dans une bonne connexion spirituelle. Il connaît son Dieu, il sait l'adorer, il lui reconnaît les attributs éternels qu'il possède. Et il lui rend gloire. Il lui rend gloire et il dit, il nous dit qu'il peut, ce grand Dieu, nous préserver de toute chute. À un moment donné, nous sommes faibles. Un faible pour le chocolat, l'autre pour la viande, l'autre pour les crèmes glacées, l'autre pour les belles voitures, l'autre pour l'argent en banque, et il ne partage rien alors qu'il va au culte. L'autre, il regarde les femmes à la télévision, à minuit, à 2 h du matin, ou les hommes. Il y a les femmes aussi qui regardent les hommes. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est des deux côtés. Comment peut-on être préservé de toute chute s'il n'y a pas de frères et de sœurs quand nous sommes là devant Internet et devant la télévision, tout seuls? Comme si nous sommes en voyage tout seuls, bien loin des autres, on peut se permettre des fredaines, des regards à droite et gauche, des bonnes conversations, des galipettes, etc. Et pratiquement, il est nécessaire d'être préservé par Dieu. Le vrai berger, le seul berger qui peut nous garder, c'est Dieu. Nous sommes si petits, si faibles. Chers amis, à celui qui peut vous préserver de toute chute, oui, à ce Dieu de gloire, il faut adresser, quand on part en voyage tout seul, quand on va en visite chez quelqu'un, Seigneur, protège-moi. Seigneur, sois avec moi. Guide mes propos, guide mes regards, guide ma conduite. Seigneur, ne me permets pas de pécher. Seigneur, je suis toujours tenté avec telle ou telle chose ou telle personne. Seigneur, mon Dieu, chasse Satan au nom de Jésus, que je rencontre cette personne avec honnêteté et droiture. Avez-vous compris, Herr Verstehen? Do you understand? Yes, capito? Eh bien, je vais vous le dire. Nous sommes si petits qu'il faut un grand Dieu pour nous garder. Il n'y a que le diable pour nous laisser croire qu'on est grand et qu'on est malin. Vous savez qu'en politique, Voltaire, au XVIIIe siècle, a osé dire ceci. La politique, ce sont des gens de peu de valeur qui dirigent des gens sans mémoire. Bizarre, Voltaire. Était-il croyant? Ça veut dire que la chute des humains est toujours orchestrée. Les gens sans valeur qui dirigent des gens sans mémoire. Ayez de la mémoire, étudiez les versets bibliques, cherchez Dieu. Toujours gardez l'amour de Dieu en face, en face. En face, dans le cœur, dans l'âme, dans le regard. Fréquentez Dieu régulièrement dans la parole et la prière. Et le jeûne, si vous n'arrivez pas à avoir des victoires, jeûnez, humiliez-vous, demandez, criez au secours au Seigneur pour que tel ou tel péché soit brisé. Et s'il y a d'autres moyens, demandez à des frères et des sœurs dignes de confiance de prier avec vous pour tel fait, telle chose, tel penchant en vous qui vous détraque. À celui qui peut vous préserver de toute chute, à lui, à Dieu seul, soit la gloire, etc. Alors, il y a encore quelque chose dans ce verset 24 de formidable, chers amis. Puis j'en termine aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de l'eau aussi. Vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Donc, le Seigneur a un programme pour nous. Ce n'est pas un programme lamentable pour nous donner des coups de bâton quand on arrive. Non, dans sa gloire, irréprochable et honnête. Donc, il ne veut pas nous faire de reproches. Il ne souhaite pas nous en faire. Il ne souhaite pas nous accabler. Et dans l'allégresse, il nous veut la joie. Il nous veut le bonheur. Il veut que nous rentrions dans la joie de notre maître. Vous savez bien cette parabole où l'heureux fidèle, qui est fidèle à une petite chose, vient, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous avez un avenir certain, un grand avenir devant vous, avec Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, ne faites pas les choses à moitié. Je vous en supplie. Y a-t-il urgence? J'en ai fini avec mon message. Maintenant, c'est quelque chose de non biblique. Y a-t-il urgence dans les choses d'aujourd'hui? Vous voyez qu'il ne pleut pas, qu'il fait chaud. Et c'est annoncé depuis des années par les spécialistes que le phénomène climatique va s'accélérer. Lisez Jérémie 51, verset 36. Vous verrez que l'Euphrate sera sec à sa source. Donc, il n'y a plus de neige sur le mont Ararat. C'était anciennement l'Arménie, c'est maintenant par usurpation et meurtre, c'est devenu la Turquie. Mais il n'y aura plus de neige et de glace sur le mont Ararat, donc plus dans les Alpes. Et dans Ésaïe, il y a aussi un texte qui nous dit, une révélation de Dieu qui nous dit que le Nil sera sec aussi. S'il est sec, s'ils sont secs ces deux-là, le Rhône est à sec, la Moselle est à sec, le Rhin est à sec, les fleuves aux États-Unis sont à sec. Qu'est-ce qui se passe? L'Amazon est à sec. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Lisez Zacharie 14. Et vous verrez que tous les peuples qui ne se tournent pas vers Jérusalem pour adorer la venue du Messie, il ne pleuvra plus. Il n'y aura plus de pluie. Dieu ne nous a-t-il pas avertis par les prophètes et la parole de Dieu? Et on veut faire le malin? Eh oui, si on veut ramasser, si on veut connaître la colère de Dieu progressivement, les avertissements de Dieu, continuons. Dieu va montrer son autorité, pour qu'on se repente avant que l'Antichrist soit là. Alors, imaginons, j'ai un deuxième point à dire, qu'il n'y a plus d'eau dans les barrages, dans les Vosges, en Suisse, il n'y a donc plus assez d'eau dans la Moselle, pour refroidir Cattenom, les réacteurs. Pour le moment, il n'y a plus que trois déjà qui fonctionnent, plus qu'un qui fonctionne sur les quatre. Parce que l'eau de la Moselle est trop faible et trop chaude. Et les autres centrales nucléaires en France. C'est vérifié, tout ça c'est vérifié, Madame Bayeux. Je ne parle pas dans le vide. J'ai rencontré des gens ces jours-ci, depuis quelques jours. Et pratiquement, 63 centrales nucléaires en France qui produisent du courant, dont 5 ou 6 pour les téléphones portables, les télévisions, les ordinateurs. Maintenant, on y ajoute les voitures électriques, les vélos électriques. Et on part toujours de l'idée que le courant électrique va toujours être là. Mais s'il n'y a pas d'eau dans les fleuves suffisamment, on ne sait pas refroidir les centrales nucléaires. Donc on doit les arrêter. Et dans les barrages, dans les écluses, sur les canaux en France, comme en Allemagne, il y a toujours l'écluse, il faut fournir de l'eau par les barrages en montagne pour qu'il y ait toujours assez d'eau pour les bateaux circuler. Et encore, actuellement, pour le moment, en Moselle, ils ne peuvent plus être chargés complètement parce que l'étiage a baissé, le niveau d'eau n'est pas suffisant. Continuons. À côté de l'écluse, il y a des barrages et il y a des turbines horizontales qui prennent l'eau et fournissent du courant électrique. Elles sont arrêtées. Dans l'est de la France, elles sont arrêtées. Imaginons que tout le monde se figure que l'électricité est toujours là. Mais quelqu'un qui habite au 16e ou 15e étage, s'il n'y a plus d'électricité pour son ascenseur, s'il n'y a pas d'électricité pour sa voiture électrique. J'étais dernièrement, il y a 3 semaines, à Ussel. J'ai des amis chrétiens. Je sors, je vois des ouvriers dehors, Je vais parler avec eux. Il faisait si chaud, j'avais compassion avec eux. J'avais compassion avec eux. Et pratiquement, ces ouvriers avaient ouvert la ligne électrique. Le câble électrique haute tension avait explosé sous les besoins d'électricité que les personnes consomment. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres cas? Oui, régulièrement, nous faisons ça. Nos câbles à haute tension explosent sous terre. Donc, les réseaux électriques ne sont pas appropriés pour les surcharges électriques que nous sommes en train de créer. Maintenant, s'il n'y a pas d'eau pour l'électricité, il faudra se priver d'électricité. Il faudra vivre autrement. On ne pourra pas recharger tout le temps les téléphones portables, les ordinateurs. Il faudra donc vivre autrement. N'est-ce pas une injonction qui vient de Dieu pour qu'on vive autrement? Depuis que nous avons tous ces appareils, des milliards d'heures de prières sont volées à Dieu. Des milliards d'heures qui devraient être consacrées à la louange, à la parole de Dieu, à l'adoration, ne sont plus données à Dieu. Mais Dieu est-il fou, sot? Non, il est Seigneur. Je vous lis ce qui est mis ici dans Jude, au verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Est-ce que c'est de la rigolade ou c'est la réalité? La Seigneurie de Dieu va se faire valoir. Il a été patient, afin que tout le monde se repente. Maintenant, imaginons qu'il y ait moins d'eau dans les fleuves, que dans 2 mois, il n'y a pas assez d'eau dans les barrages. Il n'y en a plus. Dans la Seine, qui alimente Paris, il y a des bassins de décantation pour tout ce qui sort des égouts. Il faut 60% d'eau propre pour 40% d'eau sale. Si on fournit 15 ou 20% ou 10% d'eau propre, les bassins de décantation ne fonctionnent pas. Et l'eau qu'on remet dans les robinets est toxique. Chers amis, le problème de l'eau est tout simple. Dans toute la Bible, la pluie, l'eau a toujours été une bénédiction de Dieu. L'absence de pluie, l'absence d'eau a toujours été une sanction de Dieu. J'ose vous le dire, prenons Dieu au sérieux et il nous prendra au sérieux. Avertissez autour de vous qu'il est temps de réfléchir. Donc, aujourd'hui, reprenez les uns, ceux qui contestent, et il y en a beaucoup, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, en ne permettant pas qu'ils aillent jusqu'au finish dans cette folie humaine, qu'ils soient enlevés avec le Seigneur, avec les élus. Donc, le verset 22 et 23. Que peut-il se passer dans les églises devant des enseignements comme je viens de donner? Eh bien, ce sera pour vendredi, et vous verrez, les enseignements sont donnés à partir du verset 4. Il s'est glissé parmi vous certains hommes ou des femmes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. C'est le thème de vendredi. Et ça va assez loin. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Au verset 17, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions dans les assemblées, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, avec un grand U. Ça, c'est le thème de vendredi prochain. Il faut donner les choses telles que Dieu les donne. Et si quelqu'un vient dans les églises pour endormir les gens, les séduire, comme c'était à l'époque de Jérémie, d'Ésaïe, etc., soyez sur vos gardes. Le temps est court, il faut vivre dans la volonté de Christ. Ce n'est pas que je veux vous faire peur, je suis concerné aussi. Et le Seigneur ne veut pas nous faire peur. S'il n'avertissait pas, il serait impitoyable et sadique et cruel. Il nous avertit parce qu'il nous aime. Alors Dieu soit loué, tournons-nous vers le Seigneur. Vivons dans la vérité, dans sa volonté. Amen.